France Culture. Le journal. Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. En attendant le vote de confiance réclamé par François Bayrou, le RN tente de convaincre les patrons qu'il est prêt à gouverner. Marine Le Pen fait sa rentrée politique aujourd'hui. Succès surprise hier soir pour Jim Jarmusch, Lion d'or à la Mostra de Venise. Prix de consolation, le Lion d'argent pour le grand favori qui avait bouleversé les festivaliers, The Voice of Hind Rajab sur la guerre à Gaza. Le président argentin Javier Milei en difficulté à quelques semaines des législatives. La gestion de l'ultra-libéral déçoit les électeurs. Et puis, le premier saint du 21e siècle, Carlo Acutis, un adolescent italien féru d'Internet, mort en 2006, sera canonisé aujourd'hui. Il était surnommé le geek de Dieu pour ses talents en informatique qu'il mettait à profit pour parler du Christ. En attendant les estivales, les universités d'été du RN le week-end prochain, Marine Le Pen fait sa rentrée politique aujourd'hui dans son fief d'Hénin-Beaumont. Une rentrée à la veille du vote de confiance à l'Assemblée réclamée par François Bayrou. La dirigeante du RN devrait réitérer la demande d'une nouvelle dissolution au nom de l'extrême droite qui dit pouvoir être en mesure de gouverner en cas de législative anticipée. Le RN tente d'ailleurs d'en convaincre les milieux économiques, Nicolas Ballu.
L'économie, point faible du RN et de Marine Le Pen, c'est aussi un argument clé de la droite pour se démarquer du Rassemblement National. Alors, le parti d'extrême droite tente de rassurer les chefs d'entreprise et celui qui en est chargé, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Il y a 6 mois déjà, le président du RN s'adressait à eux via une interview dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et commençait à décliner quelques axes, comme la suppression des impôts de production, celle de dizaines de normes qui contraignent la productivité et la compétitivité des entreprises, ou encore la réduction drastique des dépenses publiques, du miel pour les entrepreneurs. Mais pour des chefs d'entreprise fatigués de l'instabilité et de la crise, encore faut-il montrer une forme de responsabilité, surtout lorsque Jordan Bardella et Marine Le Pen disent en chœur « Nous sommes prêts ». Alors le président du RN s'est fendu d'une lettre aux entrepreneurs, ajoutant ses promesses d'économie sur l'immigration d'assistanat, je cite, mais surtout pour leur dire « La stabilité, c'est nous, l'instabilité ne procède pas de notre action ». Fin de citation. Propos déjà avancé quelques jours plus tôt devant les entrepreneurs du MEDEF. Jordan Bardella était invité à une table ronde avec les représentants des autres partis politiques, une première pour le président du RN, et c'est un signe. Et même s'il ne semble pas avoir particulièrement convaincu, la petite phrase du président du MEDEF, Patrick Martin, c'est Gabriel Attal, Bruno Retailleau et dans une certaine mesure Jordan Bardella qui sont le plus conscients des périls, cette petite phrase sonne comme une demi-victoire pour l'intéressé, à un moment où l'hypothèse RN ne semble plus impensable chez les décideurs.
Les Républicains font eux leur rentrée ce week-end au Port-Marly dans les Yvelines, une rentrée qui a donné lieu hier à un affrontement et une mise au point entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Le nouveau président du parti et actuel ministre de l'Intérieur s'exprimera cet après-midi, mais dès hier, il s'est efforcé de recadrer le président du groupe de députés à l'Assemblée sur l'après-Bayrou. Une récompense qui a surpris tout le monde, c'est l'Américain Jim Jarmusch qui a remporté hier soir le Lion d'or à la Mostra de Venise avec son film « Father, Mother, Sister, Brother ». Un triptyque sur la famille qui dame le pion à la grande favorite de cette édition, Kauter Benania, avec son film « Choc sur Gaza », la voix de Hind Rajab. Elle repart avec un grand prix qui ne reflète pas la mobilisation massive en faveur de la Palestine pendant ce festival, Corinne Pellissier.
Et ora, eccoci al Gran Premio della Giuria.
The Voice of Hind Rajab.
Personne n'avait imaginé qu'au terme d'une édition et d'une soirée dominée par Gaza, Kauter Benania ne remporte pas le Lion d'Or. À l'annonce du palmarès, c'est la douche froide. Ovationné quelques jours plus tôt, pendant 24 minutes, son film avait pourtant fait basculer le festival dans un de ces moments dont on ne se remet pas, laissant le public en larmes à la découverte de la voix d'Hind Rajab autour du sort d'une petite fille tuée à Gaza par des soldats israéliens au mois de janvier l'année dernière, alors qu'elle essayait de s'enfuir avec sa famille. En recevant son grand prix, Kauter Benania, la voix étranglée, lui a rendu un hommage appuyé et appelé une nouvelle fois à plus d'humanité et de justice.
The voice of Hind is the voice of Gaza itself.
La voix de Hind est celle de Gaza, un appel au secours que le monde entier pouvait entendre, pourtant personne n'a répondu. Le cinéma ne peut la ramener, il ne peut pas non plus effacer les atrocités commises contre elle. Mais le cinéma peut préserver sa voix, la faire résonner au-delà des frontières.
Le président du jury, Alexander Payne, se sera montré, lui, décevant jusqu'au bout, n'adressant aucun mot après avoir déjà botté en touche en ouverture du festival et préférant récompenser l'un de ses talentueux compatriotes, mais pour un film mineur.
On retiendra aussi de la soirée un prix du meilleur scénario pour la française Valérie Donzelli avec son film À pied d'œuvre, adapté du roman de Franck Cortès. Une soirée qui s'est ouverte sur un hommage au styliste italien Giorgio Armani, décédé jeudi. Un décès sur lequel nous reviendrons dans le journal de midi et demi avec Marc Bauger, directeur de la rédaction de la revue L'Étiquette. Le siège du gouvernement ukrainien en feu à Kiev après des bombardements russes d'une ampleur inédite dans la nuit qui ont fait au moins 5 morts dans le pays, dont 2 dans la capitale. Les sauveteurs sont en train d'éteindre l'incendie. Les bâtiments officiels de Kiev avaient jusqu'alors été plutôt épargnés par les bombardements russes. France Culture, 9h05, on en vient aux difficultés du président argentin Javier Milei. Un an après son élection, l'image du dirigeant libertarien en a pris un coup. Scandale de corruption, crise économique, crise politique, la gestion de l'ultralibéral déçoit les Argentins, ce qui ne fait pas les affaires du gouvernement en pleine élection régionale et à quelques semaines des législatives. Caroline Vic.
Période difficile pour le gouvernement. Malgré les prêts du Fonds monétaire international et une inflation contenue, la crise économique s'approfondit. Socialement, de hauts fonctionnaires du gouvernement sont montrés du doigt pour corruption, accusés d'avoir accepté des pots de vin provenant de surcoûts appliqués à des médicaments. Et politiquement, la stratégie du veto présidentiel et de la tronçonneuse ne convainc plus, surtout lorsque ce sont des personnes handicapées ou des enfants malades qui sont la cible de l'austérité. Un cocktail explosif pour l'image du président argentin. Gustavo Cordoba, politologue et directeur de l'Institut de sondage Sourbani Cordoba.
Le gouvernement est tombé sous la barre des 40% de popularité. Je crois que la cruauté maximum du gouvernement a été atteinte dans ses politiques contre le handicap, ce qui a fait que les électeurs de Milei ont pris leur distance. La société n'applaudit plus ses fanfaronnades et ses propos intolérants. Maintenant, c'est presque impossible de récupérer la confiance des gens. Tout cela a généré une rupture inévitable.
Aujourd'hui, les habitants de la province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays, éliront leur nouveau gouverneur. Une sorte de mise en bouche électorale avant les législatives fin octobre qui permettra de déterminer si la baisse de popularité de Milei se transmet ou non dans les urnes.
Caroline Vic à Buenos Aires. L'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne a suivi la déconnexion du câble entre les deux cabines qui étaient reliées. C'est ce qu'a révélé hier le bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires. Sans expliquer à ce stade les causes de la catastrophe, l'inspection visuelle effectuée le matin du jour de l'accident n'avait détecté aucune anomalie. Il était surnommé le geek de Dieu ou le cyberapôtre pour ses talents en informatique qui mettait à profit pour parler du Christ. Carlo Acutis, un adolescent italien, mort à 15 ans en 2006 et reconnu pour son souci des autres et sa grande piété, sera canonisé aujourd'hui à Rome par le pape Léon XIV. Il sera le premier saint du XXIe siècle. Son profil très particulier suscite une véritable ferveur à Assise où il repose. Le reportage de Bruno Duvic.
Il est là, dans ce sanctuaire de la spoliation où il venait souvent. Embaumé dans un cercueil vitré, le visage joufflu, les cheveux bouclés, en sweatshirt et basket Nike aux pieds. À la sortie, Marina, fervente portugaise, éclate en larmes.
Too much.
C'est trop d'émotion. C'est un enfant, il a le même âge que mon fils.
Près d'un million de personnes, Europe, Asie, Amérique du Sud, sont passées dans le sanctuaire l'an dernier, selon le diocèse. Emmanuel, mexicain de 20 ans, vénère celui qui évangélisait sur Internet.
Au moment de ma confirmation, j'avais des doutes sur ma foi. J'ai choisi de m'inspirer de Carlo Acutis. Il aimait les jeux vidéo, il passait son temps sur l'ordinateur. Je me suis senti seul.
La canonisation, qui implique un comportement exemplaire et l'attribution d'au moins 2 miracles, a été très rapide. Le père Giovanni accompagne des Colombiens.
L'Église a vu en Carlo Acutis un personnage qui peut à nouveau attirer les jeunes vers elle.
À Assise, les articles Acutis concurrencent les souvenirs de Saint François, comme dans cette librairie.
D'abord, il y a les biographies. J'en ai entre 5 et 10, il en sort tout le temps. Ensuite, il y a les ouvrages écrits par sa mère, les BD, les recueils de prières, le livre de notre évêque. Le tout en plusieurs langues.
En mars, le diocèse a porté plainte. Des soi-disant reliques étaient aux enchères sur Internet.
Bruno Duvic, notre correspondant en Italie. Le temps aujourd'hui encore largement ensoleillé à l'est et au sud, mais une dégradation orageuse arrive ce matin par la Bretagne et touchera toute la façade atlantique cet après-midi. Les températures au meilleur de la journée, 20 à 25 degrés dans la moitié nord-ouest, dans le nord-ouest, 26 à 33 sur le reste du pays.